Richard Darmon est en ligne avec nous à présent. Bonsoir Richard.
Bonsoir et shalom.
Shalom, shalom. Vous qui êtes israélien, ça vous fait sourire évidemment de voir. C'est le... Mais d'ailleurs, c'est quelque chose qui est intéressant, c'est que dans ce type de guerre, et d'ailleurs même depuis le 7 octobre, ça n'a pas séparé tant que ça, israéliens, juifs et arabes, quand on parle à l'intérieur d'Israël, hein, de ceux qui, sont, qui ont la même nationalité. On voit dans les hôpitaux, on voit dans la rue, ça n'a pas tant séparé que ça les gens.
Non, c'est au contraire, la prise de conscience, y compris du côté arabe, qu'il y a un destin commun, des dangers communs et une sorte de partage s'impose. Bon, alors ça ne résout pas la question des groupes extrémistes, etc. Mais là, au niveau des populations, le gouvernement redoutait que, sous l'effet du 7 octobre et ses suites...
C'était le but du Hamas. Le Hamas avait dit on va faire soulever les Arabes israéliens.
Oui, il voulait rééditer les soulèvements de mai 2021 dans les villes mixtes à Saint-Jean-d'Acre, à Caux, à Lod, etc. Et ça s'est pas produit. C'était assez c'est très positif.
C'est remarquable.
Oui. Oui.
Richard, d'après certaines informations, bon, vous êtes géopoliticien, conférencier, écrivain, vous avez écrit de nombreux ouvrages sur la question géopolitique, vous êtes spécialiste d'Israël. J'ai lu que, en fait, ce que voulait dire Donald Trump cet après-midi, quand il a dit « je veux beaucoup plus grand qu'un cessez-le-feu », c'est qu'il veut maintenant, il veut un accord international, avec, incluant la libération des otages, il pense qu'il peut maintenant imposer aux Iraniens ce qu'on n'aurait pas pensé pouvoir leur imposer auparavant, parce que, en fait, le rapport de force est impressionnant en faveur d'Israël. Qu'est-ce que vous en pensez et qu'est-ce que vous avez, vous, comme information à ce sujet?
Je crois que il est difficile de savoir à l'heure qu'il est ce qu'entend le président Trump par quelque chose de beaucoup plus grand. Bon, vous avez donné une définition, mais il n'est pas sans ignorer, il a d'ailleurs réagi à ce blocage-là lors des dernières 48 heures, que les Iraniens ne sont pas prêts à descendre de leur arabe, comme on dit en hébreu, et à céder sur leur la nécessité pour eux, pas seulement en fonction de l'honneur national iranien, mais de l'existence de ce régime, de renoncer à enrichir de l'uranium. Or, c'est clair que je ne sais pas quelle proposition va faire le train dans les heures ou les demi-journées qui viennent, mais jamais les Iraniens, de plus en position si difficile au plan militaire et au plan de la stabilité de leur de ce régime, ils ne sont pas en position, d'après moi, de renoncer à cette pierre angulaire qui est pour eux la maîtrise de l'enrichissement d'uranium, la possibilité de continuer à enrichir, même si on suspendra certaines activités pendant un moment, et même si on pourrait confier les énormes quantités d'uranium enrichi, à peu près une demi-tonne d'uranium enrichi qui permettent de fabriquer entre 10 et 15 bombes atomiques, ils ne renonceront pas à cette possibilité, même s'ils pourraient marquer un recul tactique en acceptant par exemple que ces stocks d'uranium enrichi soient contrôlés internationalement pendant un moment. Mais je crois que Trump est un petit peu difficile à suivre ces derniers jours, c'est le moins qu'on puisse dire, et que peut-être qu'on pourrait donner une interprétation, je dirais, plus précise de ce qu'il entend par là. Vous savez que, comme moi, donc vous l'avez annoncé aux auditeurs, qu'il a quitté le sommet du G7, il est rentré pour justement s'occuper de choses plus importantes, a-t-il fait savoir. Et entre-temps, je ne sais pas si vous l'avez signalé aussi aux auditeurs, l'ambassadeur des États-Unis en Israël, ou Kabe, a envoyé un tweet qui a été publié par la presse électronique israélienne cette dernière heure, dans lequel il exhorte le président Trump en tant qu'ambassadeur des États-Unis. C'est pas un Israélien, c'est un Américain.
Ça existe, ça, l'ambassadeur qui dit à son président ce qu'il doit faire?
Non, mais il l'exhorte d'intervenir dans le conflit il explique dans un tweet de 20 lignes assez stupéfiant, il explique que Trump a été mis, disons, là où il est à la Maison Blanche pour jouer son rôle et pour faire que les États-Unis appuient Israël au niveau militaire dans ce conflit. Alors, je ne sais pas ce que pense et ce que va faire Trump et on est là dans c'est un des points d'interrogation évidemment dont tout le monde parle en Israël comme ailleurs sur l'implication, quel degré d'implication des États-Unis à part de fournir des armes déterminantes et d'être en défense aux côtés d'Israël, mais est-ce qu'ils franchiront un pas et quel pas peut-être en vue d'un règlement global effectivement, mais on est là dans l'incertitude, mais ça fait partie aussi des moi j'ai suivi depuis 36 heures cette question. Est-ce que, bon, jusque-là, on disait que les États-Unis n'accepteront pas d'aller plus loin que ce qu'ils ont fait jusque-là. Mais je crois que les choses sont en train de se modifier. Ça ne veut pas dire que...
Malheur au vaincu, hein, Richard, excusez-moi, mais à partir du moment où on voit que les Iraniens sont à genoux, c'est beaucoup plus facile pour les Américains de dire... Il y avait une forte opposition aux États-Unis. Hein. Il y avait une opposition au sein du Parti républicain.
Au sein du Parti républicain et certains sénateurs et autres. Mais comme vous disiez, c'est facile d'aller au secours de la victoire. Et Trump, qui est un phénomène un peu difficile à cerner, il aime beaucoup les gagnants. Et là, je sais, enfin, tout peut arriver dans les prochaines heures au niveau, notamment, même si on prend pas une entrée massive des États-Unis, mais dans cette guerre. D'ailleurs, Don Tzal vient de dire, d'après les dernières nouvelles de 19h heure israélienne à la télévision, que de l'estimation qui est faite, évidemment tout cela est à prendre avec des pincettes, mais l'estimation sur la durée probable de cette guerre serait d'une semaine maximum.
Oh là là, c'est la guerre des 6 jours. C'est incroyable.
J'allais vous dire, justement, moi j'ai, comme tout le monde a bien vu que, cette guerre a démarré le 13 juin. Et que la guerre des 6 jours, elle a duré, si je ne me trompe pas, entre le 4 et le 10 juin, en 67. Et c'est quand même assez stupéfiant, pas seulement au niveau de la potentialité que cette guerre mette à genoux l'Iran, et peut-être, pas directement, mais fasse chuter le régime iranien, on peut peut-être en parler, parce qu'il y a des signes ces deux derniers jours qui sont assez sidérants, c'est que c'est la continuation de la guerre des 6 jours, d'une certaine manière, peut-être qu'elle va durer 8, 10, 12 jours, mais si ces estimations de Tal s'avèrent fondées, ce serait assez exceptionnel. Oui, pour conclure sur Trump, il se peut que les États-Unis rejoignent pour des actions ponctuelles, comme par exemple l'attaque de 2-3 centres nucléaires enfouis.
C'est ça, c'est qu'il y a du matériel qu'ont les Américains pour perforer les montagnes. Oui. Que oui. Les Israéliens n'ont pas.
Israël possède des bombes perforantes, mais pas aussi efficaces que celles des... Ils ont livré les deux premiers niveaux de bombes perforantes depuis que Trump est entré à la Maison Blanche, mais pas les bombes maximales. Et donc, il se peut que cette entrée hypothétique encore des États-Unis aux côtés d'Israël se fasse sur des objectifs très ciblés pour mettre fin définitivement au programme nucléaire iranien. En tout cas, je peux vous dire que, comme vous le disiez, moi, en tant que journaliste et géopoliticien, je me suis particulièrement attaché cette dernière décennie dans les organes de presse francophones dans lesquels j'ai travaillé, soit israéliens, soit francophones européens. J'ai suivi ce dossier iranien et je peux vous dire que ce qui est exceptionnel dans ce que nous vivons, c'est que alors que ce dossier qui avait été d'abord abordé par Shimon Peres, il faut lui rendre cet hommage, c'est lui le premier qui avait dit à la fin des années 80 que il était impensable de laisser l'Iran se doter de l'arme nucléaire parce que c'était entraîné, si vous voulez, la synergie entre trois éléments très dangereux, un régime dictatorial, en plus un régime fanatique au plan religieux, parce que des dictatures, il y en a beaucoup au Moyen-Orient, mais dictatures religieuses très dangereuses, et si on ajoute le facteur donc ce régime pourrait avoir maîtrisé l'arme de destruction massive, l'arme fatidique, l'arme nucléaire, et Peres avait déjà mis en garde un tout petit peu avant Netanyahou. Netanyahou en a fait son cheval de bataille, après bien entendu, et vous savez comme moi, et les auditeurs le savent peut-être aussi, qu'à certains moments, notamment entre 2005 et 2016, il y a eu plusieurs moments où Netanyahou a voulu...
Biden lui a dit, tu vas nous entraîner dans la guerre mondiale si tu fais ça.
Non, mais ça, c'était avant le mandat de Biden. Je parle du début des années 2000, où Netanyahou avait demandé, Barack était ministre de la Défense, et il avait demandé, il y avait un autre chef du Mossad, il avait demandé à ce qu'on mette en place un plan d'attaque immédiate d'Iran, et l'appareil sécuritaire israélien avait refusé, c'est-à-dire c'était pas un coup d'État dans l'État, mais c'était ils n'ont pas voulu donner suite. Or là, c'est ça que je veux dire. Ce qui est extraordinaire par le moment que nous vivons, qui est un moment churchillien, je dirais, à la fois pour Israël et plus particulièrement aussi pour Netanyahou, c'est que tout l'appareil, le leadership militaire et sécuritaire a été unanime dans les semaines et les mois qui ont précédé pour préparer cette opération qui a été menée comme un seul homme et qui a été préparée comme un seul homme. Il n'y a eu aucune divergence, surtout après le 7 octobre. Et après les trois autres étapes que nous avons franchies de ce que moi j'ai appelé dans mon dernier ouvrage, j'ai titré sur le 7 octobre, la deuxième guerre d'indépendance d'Israël. Et les auditeurs ont bien compris que la première phase de cette deuxième guerre d'indépendance, après le coup de massue du 7 octobre, ça a été, dans les semaines qui ont suivi, de s'occuper d'abord du Hamas, ensuite du Hezbollah au Liban, et ensuite même de la Syrie, puisqu'il y a eu la chute de Assad. Et aujourd'hui, on est au quatrième étage, on traite de ce que on appelle la tête de la pieuvre, de tout ce terrorisme, du Moyen-Orient. Et donc, le dossier de l'Iran nucléaire, c'est un serpent de mer qui dure depuis 40 ans. Et il y a une impression, pas seulement dans l'appareil politique et sécuritaire, puisque au niveau du politique, vous avez dû répercuter que
Yair Lapid. Oui, il a dit qu'il est d'accord. Richard, j'ai un forum qui nous suit là, donc maintenant je cède la parole aux auditeurs. Merci pour ces quelques. Vous êtes en direct de Jérusalem. Merci pour ces explications. Faut qu'on ait l'occasion de se retrouver, c'est dommage, voir un peu votre regard sur cette situation qui effectivement est très étonnante, parce que quand par exemple on dit on a éliminé le chef d'état-major qui venait juste d'être nommé 4 jours après l'élimination de son prédécesseur, c'est...
Vous avez dû aussi dire à vos auditeurs, je terminerai là, que à part les attaques de lanceurs mobiles où on a détruit entre la moitié et le tiers et la moitié de ces rampes de lancement mobile qui faisaient beaucoup de dégâts, c'est d'ailleurs pourquoi les tirs depuis 24 heures sont beaucoup moins...
Parce qu'ils ont plus.
Il y a des attaques des infrastructures de fabrication de missiles, et puis surtout une attaque cybernétique massive sur le système bancaire. Les Iraniens, pas seulement les suppôts du régime, mais les Iraniens ne peuvent plus retirer d'argent liquide dans les banques depuis cet après-midi. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de ce que c'est. Et donc on va, et c'est pourquoi ça, sans faire preuve de trop grand optimisme, prévoit que un maximum des cas, sauf surprise.
Dans une semaine, les enfants retournent à l'école. Richard Darmon, en direct de Jérusalem, je vous remercie. Bonsoir à vous.
À bientôt.